Déjà bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. L'objet de cette présentation, comme vient de le dire Yves, c'est le savoir mathématique et son organisation. Donc dans cette présentation, mon objectif est de vous montrer un modèle pour décrire le savoir mathématique, que ce soit celui qui est prescrit dans les programmes ou celui qui est produit dans la classe. Cette modélisation permet à la fois de se poser des questions sur ces pratiques, de les analyser par l'intermédiaire de ces questions, de les évaluer et voire de les développer pour éventuellement les transformer. Deux questions que l'on devrait se poser lorsqu'on a l'intention, lorsqu'on a le projet d'enseigner une notion mathématique sont d'une part, que signifie connaître cette notion mathématique ? D'autre part, que souhaite-t-on mettre en place pour l'enseigner ? Derrière ces deux questions, il y a la question essentielle, qu'est-ce qu'un savoir mathématique ? On prendra ici comme exemple celui de la notion qui est la division euclidienne. Ici, vous voyez un texte que l'on pourrait lire sur le tableau d'une école élémentaire, élémentaire. On voit écrit des additions, une série d'additions, et en dernière ligne, une soustraction. Puis une phrase de conclusion qui donne la réponse à la question qui est posée, mais qui n'est pas écrite sur le tableau. Si l'on continue à se promener dans une école primaire, on peut voir sur un autre tableau ceci. Là, les résultats intermédiaires sont présentés dans un tableau. Le titre de chaque ligne de ce tableau est indiqué par de chaque élève, nombre de bonbons à distribuer. Et on termine toujours par la même soustraction et la même phrase qui répond à la question qui est posée. Dans une autre classe encore, toujours peut-être de la même école ou d'une autre école, on pourrait lire aussi ceci. Là, on voit que le dernier calcul qui est écrit n'est plus écrit avec le symbole soustraction, mais est écrit avec le symbole multiplication et addition. Et la phrase est toujours la même pour répondre à la consigne posée. Enfin, on pourra voir dans une quatrième classe des élèves répartis autour de la maîtresse et devant un gros tas de bonbons. Et la maîtresse qui leur dit « Il y a ici un gros tas de bonbons, 162, et vous devez dire combien ?» Les 24 enfants de votre classe auront au plus de bonbons si on choisit d'en donner la même chose à chacun. Et vous direz aussi combien il restera de bonbons pour moi. Pour une personne qui n'est pas familière justement à ce qui se fait en mathématiques et notamment dans l'enseignement, il peut être tenté de se dire que ce qui se fait dans ces classes est bien différent. La disposition des calculs n'est pas la même. Dans les trois premières classes, les opérations effectuées sont différentes. Et surtout, dans la dernière classe, la nature de l'activité est aussi différente. Par contre, si la personne se connaît un petit peu de mathématiques, elle comprendra que la notion qui est enseignée est la même et elle saura la désigner. Elle dira que c'est la division euclidienne et saura donner un énoncé du problème de partage qui est à l'origine de ces textes-là. Elle dira par exemple, on veut partager équitablement 162 bonbons à 24 enfants présents dans une classe. Combien de bonbons aura chaque enfant et combien en restera-t-il ? Si en plus la personne est professeure des écoles, elle saura dire aussi les niveaux dans laquelle chacune de ces activités pourra être menée et aussi les prérequis que nécessite chacune de ces activités. Donc là, ce que l'on voit bien, c'est que lorsqu'on se pose ces deux questions, que signifie connaître la division euclidienne ? Que souhaite-t-on mettre en place pour enseigner la division euclidienne ? On voit bien que cette même notion mathématique est déclinée selon différentes façons, d'une classe à l'autre. Et on pourrait encore évoquer bien d'autres situations où l'on pense rencontrer la division euclidienne. Mais ce que nous rencontrons, ce n'est pas l'objet lui-même, ce sont des pratiques dans lesquelles cet objet est mis en jeu, avec d'autres savoirs. Dans les trois premières classes, on voit bien que la pratique est basée sur l'écriture dans un système de numération, dans le système de numération décimale. Et dans la dernière pratique, on utilise une technique de dénombrement. Donc ce sont des savoir-faire qui sont en jeu et qui reposent en partie, seulement en partie, sur des définitions et des propriétés mathématiques. Et des définitions, là en l'occurrence, définitions et propriétés mathématiques de la notion en jeu, c'est-à-dire de la division euclidienne. Donc on peut se demander, à ce moment-là, quelles sont les définitions qui sont en jeu de cette notion dans chacun des cas. Deux définitions de la division euclidienne qui semblent vivre dans ces classes. La première, étant donné deux entiers naturels A et B avec B différent de 0, il existe un entier naturel Q et un seul, tel que A soit compris entre B multiplié par Q et B multiplié par Q plus 1, par la somme de Q et de 1. Ce qui signifie que tout entier naturel A peut être encadré par deux multiples consécutifs d'un entier naturel B différent de 0. La première définition qui est écrite là, donc je reprends, c'est celle qui semble sous-tendre les pratiques que nous avons observées. La seconde définition est celle, alors je la cite d'abord, étant donné deux entiers naturels A et B avec B différent de 0, il existe de manière unique deux entiers, un quotient Q et un reste R, tel que A est égal à B multiplié par Q plus R, avec R strictement inférieur à B. Celle-ci, pour le coup, est utilisée explicitement dans la classe où l'on pose la division de manière experte, comme cela est dit dans les programmes, avec la potence. Finalement, pour répondre à ces deux questions, connaître la division euclidienne, qu'est-ce que c'est, mettre en place, que souhaite-t-on mettre en place pour enseigner la division euclidienne, il faut faire un choix. Il faut faire un choix sur la pratique, je répète, et sur les objets qui permettent la rencontre avec cette notion, puis l'étude de cette notion. Cela relève d'un processus que l'on nomme transposition, donc qui a été évoqué dans les autres exposés. Et cette transposition, évidemment, est didactique, puisqu'elle est motivée par l'intention d'enseigner dans une institution donnée. Institution, ici, à savoir les classes que l'on a pu observer à travers ces écrits. Institutions, ici, qui sont des systèmes didactiques, puisqu'ils sont constitués de l'élève, du savoir et de l'enseignant. Mais lorsque nous lisons ces textes de ces savoirs enseignés, nous observons uniquement un petit bout de ce processus de transposition didactique. En effet, le savoir, avant d'être mis en texte dans le programme et plus tard dans les classes, subit des transformations et des apprêts spécifiques pour pouvoir être enseigné dans une institution donnée. Il doit être nécessairement autre que le savoir initialement enseigné, désigné comme devant être enseigné, plutôt, à enseigner. Et ici, vous voyez un schéma qui résume ce processus-là de transposition didactique où l'acronyme OM signifie « organisation mathématique ». Et là, ce que l'on voit apparaître dans ce schéma, c'est l'existence d'une institution que Yves Chevallard a nommée noosphère, qui signifie la sphère où l'on pense, la sphère où l'on pense le fonctionnement didactique, et qui a justement pour rôle de faire cette transposition du savoir savant au savoir à enseigner. En effet, pour qu'un savoir soit enseignable, on sait bien, et on le voit bien dans les programmes, qu'il, jusqu'alors, il est découpé en grands domaines, secteurs et thèmes. Et il subit aussi une séquentialisation en cycles, voire en cycles et aussi en années. Cette institution qui est désignée par le terme noosphère est composée de représentants de parents d'élèves, d'associations de professeurs, de politiques, de gens qui sont spécialistes de la discipline. Et là d'ailleurs, pour la mise en place de la loi de refondation euh, la loi de la refondation en juillet 2013, là s'est mis en place un conseil supérieur des programmes aussi qui est composé de différents représentants, que ce soit politiques ou des gens qui sont spécialistes des disciplines et aussi qui représentent aussi les instances comme des parents, comme des professeurs qui enseignent dans le secondaire ou dans le primaire. Aussi, ce que l'on voit dans ce schéma, ce sont les distances qui séparent le savoir savant au savoir enseigné, le savoir enseigné au savoir enseigné et le savoir enseigné au savoir appris. C'est, je crois que Farida l'a évoqué tout à l'heure, pour justement montrer que ces savoirs-là sont différents parce qu'ils vivent dans des institutions différentes. Cela semble être une idée simple, mais ce n'est pas si naïf que ça. Et d'ailleurs aussi, ce qu'a mis en évidence Yves Chevallard, c'est que ce processus de transposition didactique, pour qu'il puisse se réaliser, il faut qu'il se réalise avec de bonnes distances pour assurer la légitimité des savoirs, du savoir à enseigner et du savoir enseigné. Notamment, le savoir enseigné doit être suffisamment proche du savoir savant pour que sa légitimité ne soit pas mise en doute. Et le savoir enseigné doit être suffisamment éloigné du savoir des parents pour que lui, ça aussi, la légitimité de l'école ne soit pas remise en question. Donc par exemple aussi, et cela a été encore souligné par la stratégie mathématique qui a été annoncée il y a en décembre, on a vu apparaître dans les programmes de lycée un nouvel objet d'enseignement qui est l'algorithmique. Celui-ci, à un certain moment donné, il a eu une bonne distance et il est rentré dans les programmes. Si l'on revient à l'exemple de la division euclidienne, compte tenu de ce que je viens de dire, on peut dire que la définition d'une notion mathématique recouvre une réalité bien complexe et procède de la mise en jeu de plusieurs éléments dont la nature dépend de l'institution où on les trouve. Donc la question, l'ensemble de savoir et de savoir-faire en étroite articulation se spécifie de manière différente selon les lieux où on les trouve. Et la question, donc, que signifie connaître la division euclidienne se spécifie, elle aussi, évidemment, selon l'institution où on la trouve, les conditions mises en place dans cette institution et les contraintes dont il faut tenir compte. La réponse à cette question ne comportera pas évidemment qu'un seul élément, mais en comportera nécessairement plusieurs, notamment des tâches qu'elle permet d'accomplir, que la notion permet d'accomplir, des techniques qui peuvent être utilisées pour accomplir ces tâches. Par exemple, on peut dire que ce soit en grande section CE1, CM1, CM2 ou à l'université, connaître la division euclidienne, c'est connaître une tâche. C'est savoir accomplir une tâche, pardon, avec une technique qui est reconnue comme pertinente dans l'institution. La tâche qui est demandée aux élèves des classes que je vous ai montrées tout à l'heure est trouver la valeur de chaque part et ce qu'il reste dans un partage équitable de 162 bonbons en 24 parts. De l'accomplissement de cette tâche, donc, émerge une pratique selon l'institution où l'on se trouve, et c'est cette pratique que la théorie anthropologique du didactique nomme organisation mathématique. Alors qu'est-ce qu'une organisation mathématique? Que recouvre ce modèle? Une organisation mathématique, dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique, est constituée de quatre éléments: un type de tâche, une technique, une technologie et une théorie. Qu'est-ce qu'un type de tâche? Un type de tâche, c'est par exemple, pour celui que j'ai pris qui est relatif à la tâche que je viens de vous dire, c'est trouver la valeur de chaque part et ce qu'il reste dans un partage équitable d'une quantité donnée à un nombre donné de parts. Alors, on désigne toujours un type de tâche par un verbe à l'infinitif et un complément. Alors, un complément parce qu'un type de tâche est toujours associé à un objet. Alors, un point que vous allez rencontrer certainement cet après-midi et peut-être les jours suivants aussi en travaux dirigés, lorsque vous essaierez d'analyser les mathématiques qui sont présentes dans les textes que vous allez avoir à, sur lesquels vous allez travailler, c'est que un type de le verbe, par exemple, calculer, ne désigne pas un type de tâche. Calculer un produit, oui, c'est un type de tâche. Calculer, c'est ce qu'on appelle un genre de tâche. Un autre élément constitutif d'une organisation mathématique, c'est une technique. Technique qui permet évidemment d'accomplir ce type de tâche. Et là, on voit que quand on regarde, quand on associe type de tâche et technique, cela renvoie à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des savoir-faire, comme on le dit couramment, qui est donc constitué, c'est un couple formé d'un type de tâche et d'une technique. Et à ce bloc-là, pratico-technique, on associe un autre bloc qui lui est composé de deux éléments, la technologie et la théorie. Alors, une technologie, ce qu'on appelle une technologie, c'est ce qui permet de justifier, produire, rendre compréhensible la technique. Alors, une technologie peut être associée, est associée à plusieurs techniques. Elle n'est pas associée forcément à une seule technique, évidemment. Et en continuant ceci, une technologie voit à son tour une théorie associée à une théorie qui la justifie, la produit et la rend compréhensible. Et quand on regarde ce bloc-là technologico-théorique, c'est ce que l'on nomme en général couramment, le savoir. Et donc là, ce qui est fort dans ce modèle-là, d'organisation mathématique constituée de ces quatre éléments, c'est de mettre en relation ces deux blocs, le bloc pratico-technique et le bloc technologico-théorique, et de ne pas minorer le bloc pratico-technique. Et le fait de penser ensemble la pratique et le discours de la pratique est un point essentiel de la mise en œuvre de ce modèle. Ensuite, pourquoi on parle d'organisation? Mais tout simplement aussi, parce que cela a été évoqué aussi dans les autres exposés, c'est que les notions mathématiques ne sont pas des isolats, et elles sont bien en interrelation avec d'autres, et donc c'est pour mettre en évidence ces liens-là. Alors, un point aussi à signaler sur la théorie, le discours théorique, évidemment, le discours théorique est plus ou moins présent selon les institutions où l'on se trouve. À l'université, ça va être un discours qui prend une grande place, et évidemment, il est beaucoup moins présent, voire peut-être absent, à l'école élémentaire. Par contre, quand on est un enseignant, il faut savoir que la théorie existe toujours. Et quand on analyse une organisation mathématique pour l'évaluer et pour la faire évoluer, en général, ce que l'on cite, c'est celle du professeur. Mais parfois, elle n'est pas toujours inaccessible à l'élève. Et ça, c'est lorsqu'on fait des analyses d'organisation mathématique que l'on s'en aperçoit. Oui, et autre chose que j'ai déjà dit, mais que j'ai envie de répéter, c'est que même si ce modèle-là, vous dites oui, type de tâche, technique, technologie, voilà, ça justifie, on sait bien qu'il faut justifier, et puis ensuite il y a une théorie, ces termes-là, dans la théorie anthropologique du didactique, ils ont des sens plus larges que les sens que l'on utilise couramment. Et Donc ceci est très important, et vous allez voir ensuite, quand vous essaierez vous de mettre en exergue une organisation mathématique, soit par une observation de classe ou d'un corpus, soit dans la lecture d'un manuel, vous allez voir que cela va apparaître forcément, et que justement, et le point important, voilà, c'est que les éléments théoriques sont là. Les éléments technologiques sont aussi présents, et il faut les rendre accessibles. Quoi. Les éléments technologiques, il faut surtout que le professeur les rende accessibles et soit bien conscient qu'ils portent et qu'ils sont associés au bloc pratico-technique, et n'est surtout pas à négliger. Et donc, pour rendre compte de ceci, En TAD, on parle d'organisation mathématique, mais il y a un mot plus général qui est utilisé, c'est celui de praxéologie. Praxéologie, terme qui est constitué de la praxis, quoi, de deux termes grecs, praxis et logos. Praxis qui veut dire pratique et logos qui veut dire discours, discours associé à la pratique. Et les deux marchent ensemble. Oui. Pour revenir à l'exemple, comme vous le suggérez, de la division euclidienne et des textes. C'est une tâche problématique qui a été vite résolue parce que j'ai su brancher le câble. Donc voilà, j'ai tout, j'avais la technologie aussi tout de suite. Alors, pour revenir, oui, bien sûr, à l'exemple de la division euclidienne et des textes que je vous ai montrés. Donc on est bien d'accord que le type de tâche, c'est trouver la valeur de chaque part, et ce qui reste dans un partage équitable d'une quantité donnée, un nombre de parts donné, puisque la quantité c'est 162 petits bonbons, et le nombre de parts c'est 24 élèves, quoi, 24. C'est 24 le nombre, hein, pardon. Dans la classe numéro 1, c'est donc la première classe que je vous ai montrée, où il y a une série d'additions, où on ajoute 24 pour passer d'une ligne à la suivante. Donc on effectue, la technique c'est effectuer des additions successives, on ajoute à chaque fois le nombre d'élèves, et puis on va s'arrêter. On va s'arrêter lorsqu'on va dépasser le nombre total de bonbons. D'accord ? Et dès qu'on l'a dépassé, mais on peut lire le nombre d'additions qui correspond au nombre de bonbons que l'on a distribué à chaque élève. Et là, on trouve le quotient et on trouve par une soustraction ce qui reste. Voilà, ça c'est la technique. La technique, donc, chacune de ces techniques, évidemment, se décline en tâches ou en types de tâches qui sont, pour certaines, disponibles aux élèves. Dans la classe numéro 2, dans le tableau où l'on voyait un petit tableau où justement à deux lignes et à plusieurs colonnes. Là, ici, quelle est la technique? La technique, on multiplie, on calcule les multiples du nombre d'élèves, et puis ensuite, là aussi, mais dès qu'on a trouvé un multiple qui dépasse le nombre total de bonbons que l'on a, eh bien, on s'arrête. Et donc, on trouve le nombre de bonbons que l'on a que l'on peut distribuer à chaque élève, et on trouve ce qui va rester en faisant aussi une soustraction, tout simplement. Dans la classe numéro 3, la technique, c'est là la division posée, et c'est la technique qui s'appuie sur un objet. Cet objet-là, c'est un objet que l'on voit, c'est la potence. Et c'est la technique que l'on doit enseigner, il me semble-t-il, à partir du CM1, CM2, voilà, et qui est la technique qui est considérée comme experte. Et enfin, dans la classe numéro 4 qui est certainement une classe de grande section, d'après ce qu'on peut lire dans les programmes, en référence de l'institution des programmes, la technique, s'appuie sur, on distribue un gros tas de bonbons, mais on ne va pas les distribuer n'importe comment, évidemment, il faut s'organiser, il faut avoir une technique pour les distribuer, sinon ça risque d'être un peu compliqué et de prendre un certain temps. Mais en tout cas, une technique qui peut être mise en œuvre, c'est de les distribuer un par un, et puis de s'arrêter jusqu'à ce qu'on ne peut plus, évidemment, les distribuer, puisqu'il n'y en a plus, et puis surtout qu'il n'y en a pas un pour chacun. Donc, quand on ne pourra plus en distribuer un à chacun, il faut qu'on reprenne ce qu'on a déjà distribué, qu'on revienne, et que là, on compte le nombre de bonbons de chacun, et puis ensuite, il nous restera, on n'a plus qu'à compter, à dénombrer le nombre de bonbons qui restent dans la boîte, pour savoir ce qu'il reste, pour la maîtresse. Voilà. Donc ce qu'on voit en général, c'est qu'une technique, il existe en général une technique qui est reconnue comme pertinente dans une institution. Il y a une bonne manière de faire. Une bonne manière de faire parce qu'il y a des conditions et des contraintes à chacune de ces qui vivent dans chacune de ces institutions. Et donc le professeur, par exemple, pour la notion de division euclidienne, pour lui faire vivre une nouvelle technique, faire évoluer l'ancienne, l'améliorer, lui, il va jouer évidemment sur les variables didactiques, et là, en l'occurrence, les variables didactiques, ce sont les nombres qui sont en jeu, et plus il prendra de grands nombres, plus les trois les techniques qui s'appuient soit sur les additions successives, soit les multiplications, ou évidemment la distribution effective, va être mise en défaut. Et donc, il pourra faire rencontrer aux élèves la nécessité de trouver une autre technique et de trouver justement faire rencontrer la nécessité et la pertinence d'une nouvelle technique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la portée de la technique, c'est-à-dire la portée de la technique, c'est l'ensemble des tâches sur lesquelles la technique réussit. Et on désigne, quand on se pose la question de la portée de la technique, évidemment, on désigne du même coup les tâches qui s'avèrent être difficiles avec cette technique-là. Ceci aussi, donc la technique, donc je ne sais pas si ça peut vous a éclairé un peu par rapport à votre question de voir comment on peut écrire ce qu'est une technique en lien avec une tâche considérée. Donc voilà, elle se décline en tâches. Et par contre aussi, d'autres points que vous allez rencontrer aussi, mais en TD, c'est que les techniques, elles se déclinent en tâches, et des tâches qui sont accessibles dans l'institution. Alors, la technique, c'est l'ensemble des tâches qui sont organisées pour accomplir la tâche qui est en jeu de l'étude. La technologie, c'est un discours sur la technique, c'est un discours raisonné sur la technique qui va permettre à la fois de justifier la technique, de la produire et de l'éclairer, de la rendre compréhensible. Alors, je vais vous montrer la suite. Donc là, ici, de quels éléments est constitué le bloc technologico-théorique ? Alors, si on se place dans la classe de grande section, où on distribue de manière équitable et de manière effective le tas de bonbons aux 24 élèves, qu'est-ce qu'on peut citer comme éléments technologico-théoriques ? Donc, les éléments qui vont expliquer, justifier et rendre compréhensible cette distribution de bonbons. On peut dire que on peut citer l'assertion suivante: pour savoir si dans une quantité d'objets on a plus d'objets que dans une autre, on compare le nombre respectif d'objets. C'est un élément technologique important. Autre élément aussi qui soutient la technique mise en œuvre, c'est l'importance de l'organisation spatiale. En effet, pour ne pas oublier quelqu'un, ou pour ne pas oublier un élève, et pour bien faire attention de distribuer le même nombre de bonbons à chaque élève, il faut disposer les élèves de manière organisée dans la classe, ou alors si ce n'est pas les élèves, c'est les petits tas, mais on va pas faire. On va suivre un certain ordre et disposer les tas, on va avoir des règles, quoi, une règle, on va se tenir à une règle pour pouvoir placer un bonbon dans chaque tas, l'un après l'autre. D'accord ? Et il faudra qu'on sache évidemment qu'on a terminé de faire le tour des 24 petits tas. Donc tout ceci fait partie des éléments qu'on considère comme technologiques parce qu'ils expliquent la technique et ils permettent de la produire là. Hein, l'importance de l'organisation spatiale ici produit la technique. Et donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure je vous ai dit que les termes technologie et théorie, dans le sens tel qu'on l'utilise ici, sont plus larges. Hein, que le sens en général, qu'on évoque quand on parle de théorie, général, on passe au savoir. Et donc là, la force de ce modèle, justement, c'est de ne pas oublier que ceci sont des éléments théoriques et en tout cas participent fortement à justifier ce que l'on fait, les pratiques d'études des mathématiques, que l'on peut mettre en œuvre dans les classes. Et que l'enseignant a tout intérêt à connaître, évidemment, à anticiper et à savoir mettre en œuvre. Si on regarde le bloc technologico-théorique pour les autres activités mathématiques, pour les autres classes, donc on peut citer deux définitions de la division euclidienne que j'ai déjà évoquées, que je vous ai déjà lues tout à l'heure. Ensuite, ce qui justifie aussi et explique, quoi, ce qui justifie et qui produit aussi d'ailleurs ces deux définitions, c'est le fait que Z est un anneau ordonné, que Z est discret et que Z est un groupe archimédien, archimédéen, pardon. C'est-à-dire que A et B sont deux, étant donné deux entiers A et B, B différent de 0, il existe K un entier tel que le produit BK est strictement supérieur à A. Voilà. Ceci, cet élément-là, justifie l'existence du quotient hein, dans la division euclidienne. Et aussi, cette propriété d'Archimède aussi est justifiée, peut être justifiée par l'axiome que toute partie non vide de l'ensemble des entiers naturels possède un plus petit élément. C'est en fait une autre forme de la même propriété. Alors, si on imagine qu'il y a une propriété disponible dans l'une des institutions que l'on a pu observer, on pourrait voir une autre pratique se développer qui s'appuie sur cette propriété-là que nous, on considérera comme élément technologique de la pratique. Cette propriété, c'est A et B étant deux nombres entiers positifs, B différent de 0, si B est le produit de B' et B seconde, Q' le quotient de A par B', Q seconde le quotient de Q' par B seconde, alors Q seconde est le quotient de A par B. Si cet élément-là est disponible, accessible, qu'est-ce qu'on peut voir dans les classes ? Ben on pourrait, pour la division de 162 par 24, donc celle qu'on a prise en exemple avant, on pourrait voir écrit 24 écrit comme produit 6 multiplié par 4, et puis commencer à faire la division euclidienne de 162 par 4, puis finalement faire la division euclidienne de 40 par 6. Et donc on conclurait évidemment que le quotient est 6, et puis il faudrait calculer le reste en faisant la soustraction 162 moins 6 multiplié par 24. Donc là vous voyez qu'à chaque moment, lorsque les éléments technologiques, les technologies soutiennent évidemment des techniques et plusieurs techniques différentes. Pour répondre à la question que souhaite-t-on mettre en place pour enseigner ? Sous n'importe quelle forme d'enseignement, que ça soit bâti sur une démarche d'investigation ou non, la réponse que donne la théorie anthropologique du didactique est on définira quel type de tâches on veut que les élèves apprennent à accomplir, avec quelles techniques, sur quels arguments technologiques on s'appuiera, et éventuellement, quelles théories légitiment l'ensemble technique, le bloc pratico-technique et technologique. Donc ce premier travail qui consiste à repérer type de tâches, techniques, technologies, permet de conduire l'analyse d'une séquence et d'une production d'élèves, comme nous l'avons fait pour les quatre cas que je vous ai présentés. Et donc vous verrez en TD que ce travail-là est producteur donc, de nombreuses informations sur les mathématiques qui sont en jeu, qui sont susceptibles d'être enseignés, qui ont une forte probabilité d'être enseignés. Pour évaluer aussi ce qui nous intéresse, une organisation mathématique, donc cette évaluation se fera en se posant les questions suivantes. Ce travail est-il conforme à ce qui est attendu au niveau concerné, puisque pratique signifie pratique institutionnelle, relatif à une institution, avec les conditions et les contraintes que porte cette institution. La technique envisagée est-elle adaptée à la tâche à accomplir ? Les arguments pour élaborer et justifier la technique sont-ils accessibles aux élèves ? Et je termine par vous citer donc les références bibliographiques sur lesquelles ce cours s'appuie. Donc l'une, ce sont des actes de l'école d'été de didactique des mathématiques en 98, dans lesquels sont présentés ces deux modèles. Le modèle d'organisation mathématique. Un livre écrit par Yves et Annie Noirfaliz, qui porte sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Et aussi, mais je ne l'ai pas cité en fait, mais qui est très intéressant à lire, évidemment, Pourquoi la transposition didactique de d'Yves Chevalard, écrit en 1996. Merci.